qué fiebre hay.
Salut à vous à la recherche du groupe perdu, session 279, émission musicale à géométrie variable sur la musique, les peuples et leur histoire, diffusion radiophonique sur RDIWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon, Radio Transparence, la web radio Trafic de Rock, les podcasts comme d'hab sur le site internet www.rdwa.fr. Cette semaine, troisième émission du cycle sur les chansons et chants du travail. Après le travail, c'est du rythme, la lutte des classes et des taffes de merde. On va s'intéresser cette semaine au management, la démarche qualité, la démarche cohésion, la norme ISO 9001, aux formateurs de managers d'excellence et à tous ces trous du cul qui font du pognon avec ces saloperies. Fini le syndicalisme, fini les luttes des classes, les grèves, les exploités, ça c'était avant, autant jadis. Maintenant, on est tous collaborateurs, on fait du team building pour rester soudés dans l'adversité et on parle un jargon d'entreprise, une novlangue qui met bout à bout des mots qui ne veulent rien dire et on apprend par cœur les 8 piliers de la démarche qualité. C'est ça la modernité, c'est ça qui va faire de la croissance. On va être du côté des winners cette semaine, de ceux qui ont tout compris. Il faut travailler le dimanche, faire des boulots à la con plutôt que d'être au chômage. Travailler jour, travailler la nuit. Le travail, c'est la santé et il n'y a rien d'autre qui compte. Voilà ce que vous allez subir pendant une heure, mais c'est pour votre bien si vous vivez encore dans le passé. Vous allez entendre des extraits de montage vidéo causant de tout ça, des sketchs humoristiques de Sarkozy avec sa fameuse rengaine « Travailler plus pour gagner plus », des discours d'experts formidables qui ont tout compris à la vie, le tout entrecoupé de chansons triées sur le volet pour illustrer tout ça en musique. Du rire, des larmes, du blabla, des cravates, vous aurez tout ça pendant une heure. On commence par Franck Lepage, comme la semaine dernière, où il nous fait étalage de toute cette langue de bois qui accompagne beaucoup de travailleurs dans leur quotidien. On écoutera ensuite Michael Jackson et son Working Days and Nights qui figure sur l'album Off the Wall de 1979. C'est parti.
Qui est à côté de vous, donc qui a créé ces ateliers, entre autres, de désintoxication de la langue de bois. Vous, vous dites, que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle un licenciement collectif un plan de sauvegarde de l'emploi, la fragilisation, la flexi-sécurité? Voilà. Là, on est vraiment dans l'exemple type de la langue de bois. Et je crois même que vous allez faire une démonstration empirique, à l'instant, à la demande générale, tout de suite, avec vos fiches.
Mais, si vous voulez, il n'y a pas seulement... prolifération, il y a une stratégie.
Derrière la langue de bois?
Bien sûr, il y a des équipes qui travaillent. Je ne suis pas dans le secret des
communes. Non, mais là, vous êtes un peu théorie du complot, là.
Oui, alors il y a deux erreurs par rapport à la théorie du complot. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. Bon. Il faudra poser la question aux communicants de l'Élysée. Mais enfin, quand les journalistes doivent parler de croissance négative et ne jamais citer le terme de récession, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rigole? S'ils pensent à ça, est-ce que c'est pas parce qu'ils savent que ça produit des effets? Et évidemment, ça produit des effets parce que la croissance négative, c'est magique. C'est toujours de la croissance. C'est juste qu'elle est négative. C'est formidable, d'accord? C'est pas une récession. Je veux dire, on pourrait passer les frappes chirurgicales, les dégâts collatéraux. J'ai rencontré dernièrement un monsieur, il vient de se faire décruter. Il ne s'est pas fait licencier, il ne s'est pas fait virer, il s'est fait décruter.
Mais c'est complètement orwellien. La bonté, le contraire de la bonté, il n'y avait pas la méchanceté, il y avait la imbonté.
Voilà, il avait. Orwell raconte on enlève mauvais, on garde bon et imbon. On
imbonté.
Est exactement dans cette manipulation de langage. Alors, effectivement, la question, c'est est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave?
Alors,
on ne tranchera pas en 28 minutes. Alors, je vous ai effectivement amené 16 mots qui ne veulent strictement rien dire.
Allons-y.
Mais qui ont l'air de dire quelque chose.
Démonstration.
C'est-à-dire, ça produit des effets de sens, et donc je vous propose ici peut-être qu'on organise un petit débat entre nous. Donc vous êtes d'accord, vous me faites confiance.
Totalement.
Ils sont battus et donc moi je souhaiterais dans le cadre de ce débat sur Arte revenir sur une notion qui vous m'en donnerez quitus me paraît essentielle. Et c'est la question du contrat que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du développement. Pourquoi penser aujourd'hui les logiques de développement dans l'esprit d'un contrat? Mais pour une raison au fond assez simple, c'est que dans l'espace désormais incontournable du local, il nous faut inventer des partenariats qui soient avec les acteurs des partenariats qui soient garants de la démocratie, c'est-à-dire qui installent, qui assoient, je dirais, cette démocratie sur un véritable diagnostic partagé qui relève le défi de la décentralisation en prenant en compte la question du lien social. La question du lien social, à l'heure de la mondialisation, excusez-moi de vous le dire, elle est bien mal en point. Mais elle est mal en point pourquoi ? Mais parce que la question du lien social, aujourd'hui, c'est dans la proximité qu'il faut la relever. Excusez-moi. Et dans la proximité, la question du lien social et de la mondialisation, c'est tout simplement la question interculturelle. Alors moi, je pense que ce beau vocable de citoyenneté, aujourd'hui, nous devons l'appliquer aux habitants eux-mêmes et avec les habitants mettre en place des logiques de participation et au fond, pour un homme politique ou pour une nation tout entière, quel plus beau, quel plus magnifique projet.
Bravo. C'est ce qu'art battu de manière complètement aléatoire.
Alors évidemment, on pourrait. Alors si on devait débattre entre nous, je vous demanderais de me poser des questions. Donc François Rollin, vous voulez prendre deux mots ?
Oui, volontiers.
Et puis vous me bricolez une question avec ça. Enfin, vous faites une phrase, ça va le faire. Voilà. Hein, donc.
Oui, bien sûr. Mais vous avez évoqué très rapidement le partenariat, mais dans le cadre de la mondialisation, vous ne l'avez pas resitué précisément.
C'est la question centrale. Ça s'appelle des effets de sens. Et en fait,
implacable.
Le problème, c'est que... Et après, ça va être sûrement à vous d'en dire
deux. Vous faites mon boulot, là. Vous êtes en train de faire mon boulot, en plus.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et je dirais juste ça, c'est que cette langue, on ne l'utilise pas dans la vie courante. Vous êtes d'accord ?
Non,
quand vous invitez
non.
des amis, vous ne leur proposez pas de venir faire une séance de lien social. D'accord ? Donc c'est une langue qui détermine nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles, toute la folie du management, ok ? Les collaborateurs, d'accord ? Et puis évidemment la langue politique. Mais on pense toujours trop souvent que à celle-là. Je veux dire, la langue politique... C'est l'homme politique à la télé, etc. Mais je veux dire, dans le monde de l'entreprise, ce langage est en train de détruire jusqu'au métier. Et donc, est en train de détruire le syndicalisme.
Oh,
Michael Jackson, Working Day and Night, après l'exercice de style de Franck Lepage du début d'émission sur la langue de bois et la novlangue managériale. Voici un représentant de cette case qui fait son beurre avec toute cette conceptualisation qui sert les intérêts des grandes entreprises dans leur course à la croissance. J'ai nommé El Señor Paul Pironet, apôtre de la démarche cohésion et grand Manitou du roulage de main, un prestidigitateur des temps modernes qui peut transformer ses phrases en flan indigeste à la noix de coco. Bravo à toi, champion. C'est parti.
Alors, comment ça se marche? D'abord, deux principes sur lesquels repose l'ensemble de ce processus d'accompagnement, processus donc de coaching d'équipe, qui repose, donc, comme je le disais, sur cinq éléments. Cinq éléments, vous savez, qui forgent en quelque sorte toutes les structures de développement que nous avons. Vous savez que dans le monde du développement personnel, ce qui est très important, c'est qu'on a le monde des principes. C'est-à-dire les principes, c'est les sous-jacents que vous retrouverez en permanence. Et puis après, pour appliquer ces principes, on trouve des techniques. Et puis ces techniques, ben, on peut les retrouver, que ce soit dans la PNL, la Gestalt, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme. Enfin bref, il y a énormément d'approches sur le marché qui offrent des techniques pour appliquer toujours ces mêmes principes. Et puis après, il y a la contextualisation de ces techniques. En l'occurrence, cela, vous allez voir, ça croise énormément d'éléments qu'on trouve en PNL, notamment puisque à l'origine de cette démarche, on trouve énormément de choses qui viennent de la PNL pour toute la partie humaine. Et puis, bien sûr, tout ce qui me vient des organisations, des entreprises, puisque j'ai accompagné pendant des années des démarches de mise en place de stratégies qualité. À l'époque, on parlait des démarches ISO 9001, 9002, 9003. Et il fallait mobiliser, bien sûr, le personnel sur la mise en place de ces structures qui ont pour but, évidemment, de développer de la qualité. Or, c'est très intéressant de mettre en place des procédures, mais on s'aperçoit très vite que si la dimension humaine, si l'âme humaine n'est pas concernée par le sens de cette procédure, eh bien, ça devient très compliqué de faire respecter et de progresser dans la mise en place de ces stratégies qualité. Et c'est là que naît, en quelque sorte, cette démarche cohésion qui est la jonction de ces structures organisationnelles faites pour faire de la qualité et en même temps cette dimension humaine à la fois individuelle et collective où là on s'aperçoit que ce qui va animer profondément les gens, c'est pas seulement des processus mais c'est des finalités qui les nourrissent, qui sont donc bâties sur un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter maintenant. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard
Après les Beatles, autre apôtre du coaching d'équipe, j'ai nommé Zico Kiax, dirigeant d'entreprise, coach et consultant en communication et management d'excellence. Rien que ça, la classe internationale de haut en bas, une éloquence sans équivoque, un bon oratoire à faire pâlir le général de Gaulle. Bravo Zico et merci de faire partager ton savoir. Il y aura ensuite les Villards d'émission pour Claire. À toutes.
Bonjour, je suis Kiax, Zico Kiax, dirigeant d'entreprise, coach et consultant en communication et en management d'excellence. J'aide les managers, les coachs, les dirigeants d'entreprise, les cadres, les entrepreneurs, les leaders d'opinion, les meneurs d'hommes et les artistes à développer le talent infini de leurs collaborateurs, faire exploser le potentiel à succès qui est caché en chacun d'entre eux et puis à faire croître le chiffre d'affaires de l'entreprise de façon mesurable. Lorsque l'on souhaite mesurer la cohésion d'une équipe, on observe les rapports entre les collaborateurs qui la constituent. Manifestent-ils une envie commune d'atteindre les objectifs de l'entreprise? La confiance est-elle perceptible entre collègues? Parlent-ils d'une même voix? Le génie manager d'excellence sait qu'une équipe soudée sera toujours plus motivée que dans le cas contraire. Il est donc capable de fédérer les individus malgré leurs divergences afin de servir les intérêts communs. Alors comment réussir à augmenter la cohésion dans votre équipe? Eh bien, vous pouvez organiser des team building. C'est un moyen très excellent ou efficace pour réunir les collaborateurs dans un cadre différent avec des opportunités de créer des liens solides. Favoriser l'interaction entre les collaborateurs. Vous pouvez faire des propositions de covoiturage entre collaborateurs habitant de la même région par exemple. Prenez garde à ne faire que des suggestions, n'appuyant surtout pas votre autorité de manager. Créez des groupes de travail, de réflexion pour trouver des idées permettant d'améliorer le bien-être dans l'entreprise. Parler d'idées permettant d'améliorer le bien-être dans l'entreprise devrait sensibiliser chaque collaborateur. C'est donc une excellente opportunité, une occasion pour les faire parler d'une même voix. Notez bien que votre rôle de chef d'orchestre sera de modérer le tout, d'apprécier la progression de la cohésion d'équipe pour votre bien et le bien de votre entreprise. Pour découvrir les clés du génie manager de l'harmonisation, il vous suffit simplement de rejoindre ma formation vidéo gratuite en allant sur le site www.videomanagementdegénie.com. Avec tous mes vœux de succès pour votre vie de manager d'excellence qui passera par l'augmentation de la cohésion de votre équipe. Merci pour votre attention. À très bientôt. Yes.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Mad. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission. Vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille. Un truc qui nous rabaisse. Un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, sans vous faire drôle. L'économie, c'est la science de l'avarice. Le royaume des enculés.
Les Villards démission pour Claire. Après la démarche cohésion, voici venu le temps de la démarche qualité et sa fameuse norme ISO 9001 qui garantit à tout client un rendu à la hauteur de la certification du grand art décryptée ici par une spécialiste en la matière. C'est parti pour 1 minute 55 de lévitation managériale.
Bonjour, je suis Annabelle Saillant, consultante, formatrice et auditrice en qualité. Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter une toute première approche de la norme ISO 9001. L'ISO 9001 est la norme des systèmes de management de la qualité. Elle définit des orientations pour le pilotage, l'organisation, le fonctionnement optimal d'une entreprise ou d'un organisme. Et ceci pour assurer la qualité des produits et des services, la satisfaction de ses clients et la mise en œuvre des bonnes pratiques en interne. Ainsi, être conforme à la norme ISO 9001 signifie pour vos clients et prospects que vous êtes organisé pour les satisfaire. Être certifié ISO 9001 leur donne donc confiance. L'ISO 9001 est universelle, appliquée et reconnue partout dans le monde. Elle est donc un atout pour vous faire valoir, autant sur les marchés nationaux qu'internationaux. L'ISO 9001 s'adapte à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, ses activités, sa culture. Elle ne contient pas d'exigences techniques liées à des métiers ou des produits. L'ISO 9001 donne des exigences sur le « quoi faire », mais pas sur le « comment faire ». Ainsi, vous pouvez appliquer l'ISO 9001 sans bouleverser votre fonctionnement et en conservant votre propre identité. Prenons un exemple. L'ISO 9001 vous demande de mesurer la satisfaction de vos clients, mais elle vous laisse libre de choisir de quelle manière le réaliser. Vous pouvez par exemple faire des enquêtes de satisfaction, recueillir leurs propres notations, compter le nombre de réclamations, évaluer leurs retours informels, etc. Vous définissez donc vous-même les moyens de satisfaire aux exigences selon votre propre identité, votre culture, vos pratiques.
C'est la vie, c'est ma vie. Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Ton entreprise sera ravie. J'aime ma boîte, oui j'aime ma boîte. Moi je l'assume, moi je la vis, et c'est ma vie. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et moi je l'assume. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et mon entreprise. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et moi je l'assume. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et mon entreprise. C'est la vie, c'est ma vie. Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais, ton entreprise sera ravie. J'aime ma boîte, oui j'aime ma boîte. Moi je l'assume, moi je la vis, et c'est ma vie. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et moi je l'assume. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et mon entreprise.
J'aime ma boîte, Paris, j'aime ma boîte, New York, j'aime ma boîte, Tokyo, j'aime ma boîte, Rio.
J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et moi je l'assume.
j'avais raison.
J'aime la boîte, j'aime la boîte, j'aime la boîte,
et moi je l'assume.
J'aime la boîte, j'aime la boîte, j'aime la boîte,
et mon entreprise.
Ah, j'aime ma boîte, Manolo. Magnifique. À la recherche du groupe perdu, session 279, troisième volume des émissions sur le travail, en cause depuis une demi-heure de management, de démarche cohésion, de démarche qualité, de normes ISO 9001. Tout ça nous est expliqué par des experts tous aussi compétents les uns que les autres, bien propres sur eux, des winners. Ils sont les nouveaux modèles de nos gouvernants successifs depuis des décennies. Comme Sarkozy, le petit Nico qui nous rabâchait il y a encore 2 ans sur RTL sa vieille rengaine du travailler plus pour gagner plus. C'est plutôt drôle, avec un peu de recul, ça vaut bien du Laurent Gérard. C'est à toi, Nico. C'est parti.
Parmi toutes vos propositions économiques, parlons donc des heures supplémentaires défiscalisées. Vous les rétablissez, c'était une loi populaire sous votre quinquennat, mais il y a quand même une précision qui manque peut-être dans votre livre, sauf à ce que je me sois trompée. Vous voulez que chaque entreprise, par ailleurs, fixe librement le temps de travail par un accord salarié, via un référendum ou pas, dans la limite évidemment de ce qu'autorise l'Europe. S'il fixe par exemple à 40 heures hebdomadaires le temps de travail dans son entreprise, l'heure supplémentaire défiscalisée, elle
commencera,
est déclenchée à la 41e.
Oui, mais ça veut dire que dans ce cas-là, le salarié qui vit dans une entreprise où il aura accepté lui-même d'être à 38 heures, à 39 heures ou à 40 heures, aura beaucoup plus que les heures supplémentaires, puisque chaque mois il sera payé. Au lieu d'être payé sur les 35 heures, il sera payé sur les 40 heures, puisque je dis également dans mon livre que naturellement, l'augmentation du temps de travail passera par 36 heures payées 36, 37 payées 37, 38 payées 38. Je n'ai pas changé. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins.
Mais alors, les heures supplémentaires déclenchées à 35 heures, aujourd'hui, elles peuvent l'être beaucoup moins. Je vous dis ça parce que pour dans l'esprit de nos auditeurs...
Clair. Essayons d'être clair. D'abord, les heures supplémentaires défiscalisées, je souhaite les rétablir parce que je souhaite que soit donnée la priorité absolue au travail. 9 millions de salariés français ont bénéficié d'une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce aux heures supplémentaires. Je précise à ceux qui nous écoutent que j'entends qu'elles soient défiscalisées pour celui qui les touche. Bon, s'agissant du temps de travail dans l'entreprise, je souhaite que chaque entreprise puisse fixer, soit par un accord avec les syndicats, soit par un référendum des salariés, la durée hebdomadaire du temps de travail dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'ils décideront dans chaque entreprise le moment où commenceront les heures supplémentaires. Et ce moment, Madame Martichoux, ne sera pas forcément le même. J'ai posé 2 conditions. Que les salariés soient d'accord et que les heures supplémentaires, non pas au sens supplémentaire, mais au-delà des 35 heures, soient des heures payées. C'est clair, on va travailler plus pour gagner davantage.
C'est en effet plus clair.
Coutez enfants, coutez, travaillez enfants, chantez après. Coutez enfants, coutez, travaillez enfants, chantez après.
Travaillez enfants, chantez après, la vie l'arrête, faut calculer. Travaillez enfants, chantez après, pensez aussi à l'avenir. Au pas.
Coutez enfants, coutez, travaillez enfants, chantez après. Coutez enfants, coutez, travaillez enfants, chantez après. Enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après. Goûtez enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après.
Chantez, j'ai dit, faut prendre plaisir. Si travail là, j'ai bien fini. Chantez, j'ai dit, faut prendre plaisir. Allons, enfants, à nos parties. Travaille.
Goûtez enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après. Goûtez enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après. Enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après. Goûtez enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après.
Un coup d'hymen, c'est vendredi. Tous petits enfants calés en classe. Passe à présent, s'arrête la vie. Sous pas instruit ou pas ni place. Poulet.
Goûtez enfants, goûtez, travaillez enfants, chantez après. Goûtez enfants, goûtez.
Casimir Létang, travail, enfants, chantez après. On continue dans le registre de l'humour avec de nouveau l'homme aux talonnettes, qui nous parle du travail du dimanche, un rêve qui deviendra peut-être une réalité dans les années à venir, à n'en pas douter. C'est parti.
Je veux le dire parce que je le crois du fond de mon cœur. Pourquoi continuer d'empêcher celui qui le veut de travailler le dimanche? Enfin, écoutez, nous sommes le pays du monde qui reçoit le plus de touristes dans le monde. Est-ce qu'il est normal, alors qu'on est la première destination touristique du monde, qu'on dise que tout doit être fermé le dimanche? Si on ne veut pas travailler le dimanche, je le comprends parfaitement bien. Mais vous comprenez, quand je vois des manifestations de salariés pour avoir l'autorisation de travailler le dimanche, parce que le dimanche on est payé double, je me dis, mais pourquoi on les empêche de le faire? C'est un jour de croissance en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus, et les autres pays le font. J'étais l'autre jour dans le Nord. Me disait Monsieur Sarkozy, le dimanche, on va tous en Belgique. J'ai dit, pourquoi? Parce que les magasins sont ouverts. Ben voilà qui est malin. Voilà qui est malin. Très bien. Donc on reste une espèce d'île. Nous, on est très contents, on interdit de travailler le dimanche, et ils vont donc dépenser leur argent en Belgique. J'aime beaucoup les Belges. Mais préférez, je les aime tellement que je préférais que ce soit eux qui viennent dépenser leur argent chez nous, plutôt que nous qui allons dépenser l'argent chez eux. Bah, sur les Champs-Élysées, ils ont trouvé le moyen de mettre un trottoir touristique et un qui ne l'est pas. Il y a un trottoir, on a le droit d'y trouver le dimanche, et l'autre, on n'a pas le droit. Je vous assure, ça fait drôle quand on vient de l'étranger, hein. On se dit, mais qui c'est celui qui a pensé à ça? Et je le dis aux maires qui sont ici, si vous ne voulez pas dans vos villes, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, il faut quand même penser aussi aux familles qui ont le droit, les jours où ils ne travaillent pas, d'aller faire leurs courses dans des magasins qui sont ouverts et pas systématiquement fermés, sur la base naturellement du volontariat. Je raconterai cette anecdote. Un jour, j'étais acheté un livre dans un magasin ouvert, justement sur les Champs-Élysées, d'une jeune fille qui m'a... Vous savez, je lui dis, ça vous plaît, de travailler le dimanche? Et mais bien sûr, le dimanche n'est pas plus long que le lundi. Simplement, on est payé double. Allez faire une réglementation pour empêcher ça? Les salariés d'une grande marque sur les Champs-Élysées ont été obligés d'aller devant le tribunal pour permettre d'être ouvert le dimanche. Est-ce que c'est normal? Alors on avait déjà inventé ce truc extraordinaire qu'on empêchait les gens de travailler plus. Donc il faut libérer tout ceci, c'est pas une question. Alors naturellement, je vois bien que le dimanche est un jour de famille, naturellement. Je vois bien que c'est un jour aussi où on peut aller à la messe, on peut avoir toutes les activités, et je vois bien tous les problèmes que ça peut poser, mais pourquoi interdire aux gens alors qu'on peut leur laisser la liberté de choisir?
En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con.
Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir?
Les gens qui pensent.
Mais qui c'est qui se gêne pas pour gueuler quand je fais des booms?
Les gens qui bossent.
Ils s'occuperaient de leurs enfants, y'aurait déjà moins de délinquants.
Les gens qui bossent.
Ils exploitent la planète, et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
c'est que de la racaille.
Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
pour les nettoyer au Karcher. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé?
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais?
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés?
Les gens qui bossent.
Et surtout à cause de qui y'a pas de boulot aujourd'hui?
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
ils sont égoïstes.
Les gens qui bossent. Oh,
heureusement, y'en a de moins en moins.
Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, 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 à main les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, oh, à main les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas de quoi la ramener.
Bon, combien là ?
Et voilà, après tous ces guignols, on va écouter enfin un homme qui a le sens du bien-être commun. Le professeur Vincent de Gaugelas qui a écrit entre autres La société malade de la gestion, Idéologie gestionnaire, Pouvoir managérial et harcèlement social en 2005. Puis récemment, Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou en 2015. Il nous parle du sujet de ce dernier livre et notamment des paradoxes innombrables que génère la gestion managériale actuelle. Vincent de Gaugelas.
Il y a évidemment plusieurs facteurs qui produisent ça. Il y a un qui est bien connu, c'est que de plus en plus, il y a un écart entre le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire les managers sont coupés entre ceux qui produisent de la prescription et ceux qui sont ce qu'on appelle les dirigeants de proximité, qui sont plus près du terrain et qui essayent de faire que ça marche. Et entre les deux, comme il n'y a plus de lien, d'un côté, on dit des prescripteurs que ça marche pas parce qu'on ne respecte pas les prescriptions, et de l'autre côté, du côté du travail réel, on dit mais les prescriptions elles nous empêchent de travailler. Alors c'est le paradoxe par exemple de la qualité totale. La qualité totale est faite pour essayer d'améliorer le travail, et les gens sur le terrain vous disent non seulement la qualité totale nous empêche de travailler parce qu'en fait elle nous aide pas à faire de la qualité, elle nous aide. On nous dit qu'il faut mesurer la qualité. Et le paradoxe, c'est que la qualité totale se transforme en maladie grave qui est la cantophrénie, c'est-à-dire la maladie de la mesure. Ou alors, il y a un autre... Donc, si vous voulez, un des aspects qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas seulement des injonctions paradoxales dans la communication, dans la relation, c'est les outils de management eux-mêmes qui sont devenus paradoxants. Je pense au management par objectif, par exemple, parce que pourquoi c'est devenu paradoxal ? Parce que les objectifs ne cessent de s'élever et les moyens pour les atteindre ne cessent de diminuer. Et donc le paradoxe, c'est qu'on vous demande de faire plus avec moins. Et évidemment, il y a des moments où c'est plus possible. Ou l'organisation par projet, qui est à la mode aujourd'hui. On vous dit qu'il faut développer des projets, c'est l'innovation, etc. Or, l'organisation par projet, détruit l'organisation existante. C'est-à-dire, arrive à ce paradoxe qu'elle empêche de l'organisation, ce qui fonctionne dans l'organisation, ce qui fonctionne bien, ou normalement, mais normalement entre guillemets, est comme détruit par l'organisation par projet qui oblige à affecter les ressources à des projets futurs, mais comme c'est à égalité de ressources, donc à les retirer à ce qui marche dans le présent. Voilà quelques exemples des raisons pour lesquelles je pense que les organisations deviennent paradoxantes. Et une des conséquences de ça, c'est qu'elles mettent les gens en grande difficulté, parce que les psychologues le savent depuis longtemps, les paradoxes, ça rend fou.
Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond.
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? S'il t'a donné la santé, le reste c'est une histoire de temps. Mon ami, faut prier, un jour ça va aller.
Ton petit
faut te prendre au sérieux. Tu commences petit petit, un jour pour toi va sortir. Faut jamais te décourager. Y'a chaque chose à son temps, à ti te faut fouiller. Dans la vie on ne sait jamais. Oh.
Travailler, deuxième explication de texte du professeur et docteur en sociologie clinique Vincent de Vaugelac. Il nous explique comment on en est arrivé là, à ce management de l'instant, cette culture du résultat, de la rentabilité, où il est encore question de cette novlangue managériale. On écoutera ensuite Pomelo Monk, le travail, toujours le travail. C'est parti.
Je pense qu'il y a trois déterminants essentiels pour comprendre. Il y a l'évolution et les transformations du capitalisme, et en particulier la dissociation dans les années 90 entre capitalisme financier et la production, ce que les économistes appellent l'économie réelle. Et par exemple, il me semble qu'on assiste à un tournant. Vous savez que Schumpeter disait que la force du capitalisme, c'était le principe de destruction créatrice, c'est-à-dire qui détruisait en permanence ce qu'il produisait pour produire des biens, des services, qui produisaient plus de valeur que ce qui avait été détruit. Aujourd'hui, je pense que ce principe-là est en train de s'inverser et que le capitalisme est dans un principe de création destructrice. J'en vois trois indicateurs. La planète, on est en train de détruire la planète. Le deuxième indicateur, c'est la crise financière. C'est-à-dire la crise financière montre que le capitalisme n'est plus facteur de progrès. C'est, comme disait Kravitz, un grand directeur de fonds de pension, il dit « moi, c'est l'argent qui travaille ». À partir du moment où c'est l'argent qui travaille, on n'a plus besoin de travailleurs. Et le troisième indicateur, donc, cette crise permanente dans laquelle il capitalise, qui donne l'impression qu'aujourd'hui, il détruit en permanence du travail, on y reviendra peut-être, les travailleurs, etc. Alors ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est la révolution managériale. C'est-à-dire cette idée que pour accompagner le développement économique, il faut faire de la croissance, il faut améliorer la production, la productivité, la flexibilité, l'adaptabilité, la mobilité, tous ces discours-là qui se sont accompagnés d'outils de gestion, comme la ligne production, par exemple, comme le management par projet, comme tous ces outils, comme les outils d'évaluation quantitative des résultats, la culture de résultats, qui fait qu'on ne se préoccupe plus du fonctionnement de l'organisation pour pouvoir l'adapter aux nécessités de la production, mais que la rentabilité est devenue l'élément d'évaluation, de référent essentiel, qui fait que les managers vous disent aujourd'hui, avant, les managers s'occupaient de faire bien fonctionner les organisations et trouver les médiations nécessaires pour faire fonctionner, pour que ça travaille. Aujourd'hui, les managers s'occupent des résultats, sont évalués sur les résultats, et cette éthique de résultats, comme ils disent, produit des outils de gestion et un langage, cette novlangue managériale, qui fait qu'on euphémise les conflits et les contradictions. Par exemple, on vous parle pas plus de plan de licenciement, on vous parle de plan de sauvegarde de l'emploi. Le troisième déterminant, c'est la révolution numérique. C'est-à-dire que l'outil informatique a donné à la révolution managériale une accélération. Armut Rosa, un grand sociologue, parle d'accélération. Ma collègue Nicole Aubert parle de la société malade du temps. C'est-à-dire le fait de pouvoir être confronté à plusieurs temporalités en même temps, être dans l'immédiateté, dans la réactivité, qui fait que plus on gagne du temps, moins on en a. C'est-à-dire qu'on est dans des outils qui normalise cette espèce d'exigence du toujours plus, qui fait que vous avez des gens, par exemple, des études qui montrent, par exemple, que tout ça produit l'érosion du temps de sommeil, et que on trouve normal maintenant, quand on a une insomnie, de l'occuper à essayer de se mettre à jour et de gagner du temps pour être moins stressé le lendemain matin. Personne n'a le sentiment de maîtriser ça. Et donc, on vous dit dans les entreprises, on a le nez sur le guidon, on sait qu'on va dans le mur, et on pédale de plus en plus vite.
De la vie, le travail toujours le travail, le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Des villes entières ont été construites grâce au travail des hommes, sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un aspect primitif. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.
Olé, olé.
Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.
Olé, olé.
Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune. Il y en a d'autres qui font des recherches pour sauver l'humanité. Le travail moteur de la vie,
olé, olé.
Le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie,
olé, olé.
Le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.
Toi qui veux rouler carrosse, toi qui dois boire et manger, toi qui veux jus de la vie, toi qui veux bien t'habiller, il n'y a qu'un secret, c'est le travail.
Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.
Des villes entières ont été construites grâce au travail des hommes. Sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un acteur primitif.
Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie,
olé, olé.
Le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.
Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune. Il y en a d'autres qui font des recherches pour sauver l'humanité.
Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.
Pamelo Munca, le travail, toujours le travail. Voilà, c'est la fin de cette émission dédicacée à tous les managers. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site internet de RDWA, la rubrique émission musicale. La semaine prochaine, on continue sur notre lancée. On va causer encore de travail, de recherche de travail plus exactement, puisqu'on va causer chômage et aide sociale, où il sera question de RMI, de RSA, de Pôle emploi, des ACDIC, du droit au chômage, d'histoire du chômage. Tout ça sera illustré avec les déchiens du gros Land, Franck Lepage, encore lui, Striptease, et puis des musiques qui évoquent cette thématique. D'ici là, prenez soin de vous. C'était À la recherche du groove perdu, et on se quitte avec le meilleur morceau du jour, à n'en pas douter, Réussir sa vie, le tube interplanétaire de Bernard Tapie, chanté à tue-tête devant leur miroir par tous les possesseurs de Rolex et de yacht. Allez, bye, et à la semaine prochaine.
C'est de parler à Dieu comme à ses voisins, dire que ça ira mieux même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages et devant un avion rêver de voyage. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait aux billes, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout donner.